Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, autour de la table, il y a Paul Lassen, il y a notre professeur d'histoire géo et militant CGT Benjamin Hamard, le journaliste média mais pas que Thierry Moreau et la journaliste à l'incorrect Juliette Briens. On vous attend également nombreux au 32-16 et sur l'appli RMC pour agir à tous nos débats. Et dans un instant, on parlera de ces PDG du CAC 40 qui gagnent en moyenne 130 fois plus que leurs salariés. Est-ce qu'on doit plafonner le salaire des patrons? À 13h30, ce sera le zapping, le meilleur d'RMC. Il y a moins d'ouvriers aujourd'hui en France. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? On parlera des retraités qui vont assurer la sécurité des JO. Est-ce que c'est rassurant ou inquiétant? Et puis, est-ce que vous comprenez que l'on refuse de porter la flamme olympique? On en parlera dans le zapping. À 14h, plus de 3 millions de Français possèdent une résidence secondaire. Mais avoir une résidence secondaire, est-ce l'enfer ou le paradis? Et puis RMC Conso, ce sera à 14h30. Et Charlotte Méritant nous dira comment déjouer les arnaques de plus en plus nombreuses sur Internet. Et puis on vous fait gagner des places de foot exceptionnelles, Paul.
Le mardi 7 mai, le PSG affrontera le Borussia Dortmund au Parc des Princes en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Et on vous propose de vivre l'expérience RMC, l'avant-match dans nos locaux avec toutes les équipes d'RMC Sport. Ensuite, direction le Parc des Princes avec la personne de votre choix avant de revenir ici à RMC pour assister à l'after-foot. C'est simple, dès que vous entendez ce signal à l'antenne. À partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16.
RMC, Estelle Midi.
13h06 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi tout de suite avec l'étude du jour et c'est celle de l'ONG Oxfam qui nous apprend que les PDG du CAC 40 gagnent en moyenne 130 fois plus que leurs salariés, avec des disparités tout de même puisque la présidente d'Orange ne gagne que, entre guillemets, 29 fois le salaire moyen de son entreprise contre 1453 fois pour le PDG de Téléperformance.
Entre 2019 et 2022, Estelle, la rémunération des patrons du CAC 40 a augmenté de 27%, soit en moyenne plus de 6,6 millions d'euros, alors que le salaire moyen au sein de ces groupes n'a augmenté que de 9%. Voilà le constat dressé par Oxfam. L'ONG dénonce un système à double vitesse qui accroît l'écart entre patrons et salariés, tout ça dans un contexte où la pauvreté en France est en forte progression et touche plus de 9 millions de personnes. Alors cette situation, elle est d'autant plus incompréhensible que les salariés ont beaucoup perdu en pouvoir d'achat depuis la crise du Covid, commente Oxfam. Alors quelles sont les entreprises qui sont sur le podium dit de l'indécence par l'ONG? En troisième position, Stellantis, dont le PDG Carlos Tavares a gagné 341 fois plus que le salaire moyen de 64 000 euros. Lui a touché 21 millions d'euros. En deuxième place, c'est le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, avec plus de 9 millions d'euros de rémunération, un écart 426 fois plus que le salaire moyen au sein de son groupe. Enfin, en tête, tu l'as dit, Estelle, la société Téléperformance, son PDG qui gagne 1453 fois plus que le salaire moyen de son entreprise, hein, 19 millions pour lui, 13 568 euros pour ses salariés. Alors, est-ce que ce plafonnement verra le jour? On ne sait pas. Il y a un an, il faut se rappeler qu'Emmanuel Macron s'était dit choqué par ces écarts de salaire. La balle est maintenant dans son camp.
Alors, faut-il plafonner le salaire des patrons? Thierry Moreau.
Alors déjà, on est un peu en train de découvrir le capitalisme et le supercapitalisme. C'est-à-dire qu'on a à la tête de ces entreprises du CAC 40 des gens qui sont arrachés dans le monde entier. Le patron de Stellantis, je rappelle juste que quand il est arrivé, l'entreprise perdait 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle en a gagné 18,6 milliards. Donc, cette performance de passer de moins 5 à plus 18,6, ça se paye. Alors, on peut considérer, je vois Benjamin, évidemment, qui va trouver que c'est beaucoup trop. On a deux leviers. D'abord, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Ça exclut, évidemment, tous les petits patrons qui, eux, souvent, gagnent moins que leurs employés. Évidemment. Donc là, il n'y a même pas de débat. Là, on parle donc des quelques entreprises avec des super salariés à leur tête qui sont des super salariés. On a deux leviers. Réduire l'échelle, effectivement, dire, ben voilà, dans une entreprise, non pas plafonner la rémunération, mais dire, voilà, si vous touchez tant, ben, il faut que celui qui est en bas de l'échelle, il gagne un certain prix de façon à ce que le coefficient multiplicateur soit moins important. Ça, c'est une des façons de régler le problème. Parce que sinon, plafonner, on va se retrouver, je rappelle quand même, c'est un marché mondial, et ces PDG s'arrache dans le monde entier pour des performances économiques parfois exceptionnelles. Aujourd'hui, Stellantis est un bijou. Ouais. C'est devenu un bijou.
Et Orange aussi. Et la PDG d'Orange gagne 29 fois plus que le salaire moyen de ses salariés. Donc, c'est possible.
Donc, on peut, à ce moment-là, réduire l'échelle, augmenter les bas salaires plutôt que de réduire le salaire du patron. Parce que, encore une fois, c'est des talents. Ben, moi, je veux bien qu'on soit tous des économistes de plateau, mais il n'y a personne autour de ce plateau qui serait capable de faire le travail qu'a fait le patron de Stellantis à la tête de cette boîte.
Ça, on entend. Et alors, juste, il y a quand même un petit biais dans l'étude Oxfam, c'est qu'ils prennent, en fait, l'entièreté du salaire. Sachant qu'en fait, dans une rémunération patronale, il y a, en tout cas, sur les PDG du CAC 40, en moyenne, 70% de part variable. C'est-à-dire que cette part, si l'entreprise ne fait pas de bénéfice,
vous avez raison.
Il n'y a pas de part variable.
Et de même, quand les patrons font une connerie et qu'ils sont virés, ils devraient partir sans rien.
Évidemment.
Et trop souvent, ils partent avec un parachute doré parce que leur contrat prévoit qu'ils partent avec de l'argent. Ça, en revanche, c'est absolument inacceptable.
Est-ce qu'il faudrait, Benjamin Hamar, plafonner le salaire des patrons? Allez, alors, certains proposent de 1 à 20. Ça paraît, malheureusement, peut-être pour vous, mais peut-être un peu faible, mais au moins passer de 1 à 100, on n'a pas le droit. Ou alors, simplement, là, on voit aussi que les patrons ont été augmentés en 3 ans de 27% contre 9% aux salariés. Est-ce qu'il faudrait, quand un patron s'augmente de 27%, augmenter les salariés mécaniquement de 27%?
Alors, d'abord, sur le débat, quand même, je rappelle que c'est un débat qui commence à revenir comme un marronnier.
Mm-hmm.
Sauf qu'il y a derrière, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est nous, ce qu'on dit en plateau ou dans les émissions, c'est intéressant, mais enfin, ce que fait la puissance publique. Je rappelle que, entre deux tours, parce que des fois, on a l'impression d'avoir une mémoire tampon comme Dory, la copine de Nemo. À l'entre-deux tours, de la présidentielle 2022, vous avez Emmanuel Macron qui réagit au fait que Carlos Tavares a plus 19 milliards.
Oui.
Et il nous fait toute une sérénade en nous disant c'est choquant et excessif, mais peut-être qu'on a une solution si on agit à l'échelle européenne. C'était il y a 2 ans. Le débat n'est jamais revenu et c'était pas la première fois qu'il était déjà abordé. Donc moi j'en ai assez de voir ce sujet revenir sans cesse puis disparaître au gré de l'actualité. Donc il s'agirait de poser les solutions. Alors comme ça a été dit un peu précédemment, finalement je pense que si les salaires du plus grand nombre connaissaient une dynamique haussière, ça ne choquerait pas autant. Je pense que ce qui choque profondément les gens, c'est de voir ces chiffres astronomiques alors que eux ont eu des augmentations de salaire inférieures à l'inflation. Donc effectivement, la question que cela pose, c'est, mais quelque part, bien évidemment que je trouve ces chiffres exorbitants et complètement ahurissants, mais encore une fois, si derrière on avait une politique de revalorisation salariale qui profiterait au plus grand nombre...
Comme chez Michelin par exemple.
Mais le discours du patron de Michelin, je le trouve, alors sans doute que je connais pas l'entreprise aussi bien que mes camarades de la CGT Michelin, mais en tout cas ce discours-là sur l'idée que le SMIC n'est pas un salaire décent, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et effectivement, moi, comparativement, il y a quand même des entreprises, tu l'as dit d'ailleurs, qui dans lesquelles l'écart salarial est beaucoup moins important.
Ouais.
Mais ce qui compte, c'est pas finalement de créer des polémiques creuses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les gens peuvent vivre mieux. Donc, quelle est la politique salariale effectivement que nous menons pour le plus grand nombre?
Ça dégonflera... Alors, a priori, dans les grands groupes, et tu le sais, Benjamin, c'est pas là où les salariés sont les plus maltraités. Je parle des salariés des groupes du CAC 40. A priori, ce sont les salariés qui ont le plus d'avantages en France. Ça a beaucoup plus d'avantages quand t'es salarié de Total.
Stabilité incroyable.
Que quand t'es salarié d'une petite entreprise.
Mais pour autant, donc, je pense que derrière, lorsque ce sujet vient entre les mains du gouvernement, je suis sûr que le gouvernement va réagir à nouveau, d'ailleurs il l'a déjà fait sur cette question-là. La question qui doit, à mon avis, l'obséder, et ça n'est pas le cas, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer une dynamique haussière pour les salaires pour le plus grand nombre.
Donc t'es quand même pour un plafonnement,
Un plafonnement, mais je suis surtout pour que effectivement, quand on a des augmentations de ce type, elles profitent non seulement aux salariés de l'entreprise, mais qu'on s'en sert pour se dire que la question des salaires, c'est quelque chose de fondamental en France, et ça n'est pas le cas dans les politiques publiques.
Juliette Briand, ça vous choque, vous, qu'un patron puisse gagner 400 fois le salaire moyen de son entreprise?
Alors, ouais, moi, évidemment, je suis d'accord avec rien de ce qui a été dit précédemment par mes camarades.
Surprise.
Un patron dans un groupe privé, il est rémunéré à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez dit, la plupart de leur salaire, de leur rémunération, elle est variable. Ça veut dire qu'on leur a fixé des objectifs et que ces objectifs ont été atteints et donc on les paye en fonction. Le PSG, je ne pense pas qu'il paye Kylian Mbappé avec un plafond par rapport au petit comptable qui travaille lui aussi pour PSG. On gagne dans la vie ce qu'on rapporte. on a une valeur sur le marché. Voilà, personne va dire que Kylian Mbappé faut réduire son salaire. Et ben le PDG de Carrefour, c'est pareil. La seule chose que vous allez réussir à faire en faisant encore une fois intervenir l'État et plafonner je ne sais quoi, comme si on était en Chine communiste et que on pouvait plus laisser les entreprises privées choisir de leur propre politique de rémunération, c'est que tous les PDG, les meilleurs de France, oui, ils vont partir. Ils vont partir aux États-Unis où là les prix s'envolent et où les salaires sont démentiels par rapport à la France déjà. Et ils vont tous partir. Mais comment les retenir? Comment les retenir? Moi je leur en voudrais pas. Voilà. Donc voilà, continuer à mettre des règles et à intervenir, et c'est exactement ce qui va se passer. Les meilleurs partiront et on se retrouvera avec les trois jojos qui restent.
Non, mais si tu plafonnes, en fait, si tu plafonnes de 1 à 100 par exemple et que tu augmentes ton salaire moyen de ton entreprise, bah t'as pas de problème. En fait, le problème, c'est les très hauts salaires et les très bas salaires. Les salaires bas étaient plus hauts, t'aurais pas cet écart.
D'accord, mais c'est aux entreprises de gérer leur politique de rémunération, et les employés ont le droit de revendiquer. D'ailleurs, ils ont le droit de revendiquer. Oh, ils ont le droit de partir aussi, hein, de travailler pour quelqu'un d'autre s'ils sont pas contents de la rémunération. Moi, j'ai toujours été pour. Si j'avais une entreprise, je souhaiterais pour une politique de rémunération haute pour avoir les meilleurs, les plus motivés. Mmh. Je connais des entreprises qui le font, ça se passe très bien. Voilà, vous êtes pas obligé de travailler pour des entreprises non plus, en fait.
On a énormément d'appels au standard. Et je vais commencer tout d'abord avec Stéphane qui nous appelle de Poisier et qui est chef d'entreprise. Bonjour Stéphane.
Bonjour Estelle.
Vous n'êtes pas chef d'entreprise du CAC 40, Stéphane?
Oui, non, je suis pas patron du CAC 40. J'aimerais bien, si j'en avais la possibilité, mais non, c'est pas le cas.
Stéphane, ça vous choque ces salaires où vous dites, c'est mérité?
C'est totalement mérité.
D'accord.
Totalement mérité. Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce que j'estime qu'à partir du moment où, en effet, la personne qui est juste auparavant, je dis pas ça parce que je suis patron, moi je suis tout petit patron. L'entreprise qui fait 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, je suis très loin du CAC 40.
Oui.
Mais
c'est pas mal quand même.
Oui, c'est bien. Non, mais je ne sais pas. Moi, c'est à la force de mes poignets que je suis parti de zéro et on fait 4,5 aujourd'hui. Mais à la force de mes poignets. Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un soit payé 400 000 fois, 2000 fois le salaire moyen français. À partir du moment où son entreprise est performante, qui crée des emplois, qui crée de la valeur ajoutée, que lui-même, avec sa fortune, crée aussi des emplois et de la valeur ajoutée, c'est très bien. C'est très bien le niveau. Ça élève le niveau général. Ça élève le niveau de l'industrie. Ça élève le niveau des salariés. Je prends un exemple. Moi, c'est moi dans ma modeste entreprise qui fabrique des étiquettes. Mes salariés, ils ont eu la prime Macron. Et s'ils n'avaient pas eu la prime Macron, ils n'auraient pas pu avoir des primes aussi violentes. Parce que quand vous posez des primes à 6 000 euros nettes, défiscalisées et déchargées, ça, on n'en parle pas. Par contre, quand vous continuez à poser la CSG-RDS, et puis que la CSG-RDS, quand vous la regardez tous, là, ceux qui écoutent, vos invités, les auditeurs, quand vous prenez votre bulletin de salaire, puis vous allez regarder la ligne CSG-RDS, qui représente quasiment 20% de votre brut. Là, vous vous dites, mais la CSG-RDS, ça sert à quoi? Ça sert à financer le système social, mais est-ce qu'on en a besoin du système social quand on est au plein emploi?
On n'est pas tout à fait au plein emploi, ça ne nous a pas échappé, Stéphane.
On n'est pas très loin.
Le chômage se dégrade un petit peu quand même.
Oui, on n'est plus à 9%, il faut arrêter de prendre des Français.
Non, c'est sûr,
mais
vous avez raison.
Aujourd'hui, on arrive à trouver personne, on ne trouve pas de salariés, on n'arrive pas à embaucher parce que les gens, ils sont bien chez eux. Il y en aura toujours une partie incompréhensible qui n'iront pas travailler. Mais en attendant, il y en a une bonne partie aujourd'hui qui pourraient les travailler et qui pourraient gagner leur vie aussi. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, il faut arrêter de véhiculer des informations qui sont fausses. Aujourd'hui, les patrons, petits, moyens et artisans et agriculteurs ne trouvent pas de salariés. Pourquoi? Parce qu'ils sont chez eux et qu'ils sont aussi bien payés chez eux.
Mais Stéphane, je suis désolée, je peux pas vous laisser dire ça parce que c'est pas. C'est pas une majorité. La majorité des gens, ils travaillent, Stéphane. Je suis désolée. Là, vous parlez d'une petite minorité. Soit les chômeurs, la grande majorité des chômeurs, très grande majorité cherchent du travail. Mais la majorité des Français, ils travaillent. De toute façon, je parle pas des chômeurs. La majorité des Français, ils travaillent. Ils ont juste envie de gagner leur vie dignement. Et c'est vrai que. Alors après, moi, je trouve ça un peu idiot d'aller comparer un emploi. Un ouvrier non qualifié à un patron, je veux dire, c'est pas le même boulot, ça n'a rien à voir, etc. Mais c'est vrai que savoir qu'un patron gagne effectivement comme celui de Stellantis qui va gagner 40 millions d'euros dans l'année, c'est vrai que ça paraît fou, même si les employés de Peugeot doivent être très bien payés. Et à un moment, moi je comprends qu'il y a des salaires qui choquent, et effectivement, et s'il y avait un plafonnement de 1 à 100, je pense pas que ça changerait la vie des grands patrons, ni des petits employés d'ailleurs. Mais enfin bon, voilà, ça mettrait quand même une certaine décence.
Mais bien sûr que si, ça changerait tout. Alors là, je peux vous le dire.
Mais dépend. Si
comme mais ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'ils vont partir et que personne ne part.
Si ton salaire moyen dans l'entreprise, je veux dire, il est de parce que le salaire moyen, t'as aussi le salaire des cadres, etc. Tout le monde est compté. Bon, bah, s'il est de 5000 euros dans l'entreprise, ton salaire moyen, si tu fais 100, genre le patron il gagne 500 000 euros. J'entends, hein. Les grands patrons ils gagnent plus que ça. Mais bon, c'est quand même.
C'est pas
ridicule, alors, quoi.
Déjà, genre, c'est pas.
Tu gagnes 500 000 euros par mois. Par mois, c'est ridicule.
C'est pas en allant plafonner un salaire de patron à 30 millions au lieu de 40 millions que vous allez faire augmenter le salaire
mais c'est déjà
des employés.
Mais c'est déjà ça. Tu
ah mais je suis d'accord avec toi. Tu veux que je te dise ce qui ferait changer les choses? Parce que au-delà, le PDG finalement à la fin dans un certain nombre d'entreprises c'est rien d'autre qu'un le premier des salariés.
Ça,
mais au-dessus il y a les actionnaires qui brassent un pognon monstrueux.
Mais les actionnaires c'est les propriétaires qui prennent tous les risques.
Non mais attends, je ne peux pas te laisser dire l'idée que finalement la France serait une sorte de soviet où les pauvres ou les riches seraient véritablement spoliés. C'est le pays d'Europe occidentale où la capitalisation boursière est la plus exorbitante. Nous avons pété le record du CAC 40. Donc au-dessus se pose la question des dividendes, du rapport dividende-travail, et là c'est un véritable scandale.
Mais il n'y a pas de scandale quand tu es propriétaire non, et que tu as investi dans une entreprise, que tu as pris tous les risques.
Les inégalités,
c'est normal que tu sois rémunéré, c'est comme ça que ça marche.
Et les inégalités sociales, toi ça ne te parle pas. C'est un dividende, un CAC 40 qui est exorbitant et derrière des gens qui crèvent la bouche ouverte, visiblement c'est la loi naturelle des choses.
Il y a
la redistribution des richesses.
Mais parce que moi j'ai d'autres solutions que toi, tout simplement, on n'a pas la même vision des choses.
Non mais oui, tu dis aux gens, barrez-vous, si vous n'êtes pas contente du salaire, barrez-vous, c'est une sacrée solution ça.
Alors, je voudrais qu'on prenne en ligne Pascal qui nous appelle d'Annecy, et Pascal il est sans profession. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour. Oui, voilà. Ouais, il y a une question parallèle à votre question qu'il faudrait peut-être se poser en même temps.
Oui.
C'est que si on pense qu'il y a une relation de cause à effet du fait qu'il y a des ultra riches et des classes moyennes qui n'en sortent plus et qu'il y a des ultra pauvres, si on pense ça, oui, on peut se poser la question. Si on ne le pense pas, on laisse tomber, ça ne sert à rien. Parce que moi, je pense qu'il y a une relation. Et là, il faut vraiment stopper. C'est juste mathématique. Les finances, que ce soit françaises ou mondiales, il y a une enveloppe qu'on peut réguler, mais il y a une enveloppe. Si 90% des richesses, comme de plus en plus, appartiennent à que quelques personnes, ben les autres ne peuvent pas s'en sortir. Donc il ne faut pas donner l'argent aux pauvres, il faut que le pauvre puisse s'en sortir par lui-même, par son travail. Donc, bien sûr qu'il faut plafonner non seulement les salaires, mais il faut plafonner les revenus. Ça sert à quoi toute cette différence? Ça sert juste à appauvrir certaines personnes, les classes moyennes n'en sortent plus. Tout appartient à quelques personnes, à quelques groupes. Vous allez, un matin, vous allez chez Decathlon. Après, vous allez chez Saint-Maclou acheter du Lido. Vous allez dans le magasin boulanger acheter des électroménagers. Vous allez manger chez Flunch. Après, vous faites vos courses à Auchan. Et vous allez chez Leroy Merlin acheter
c'est la famille Mulier.
Tous les bénéfices vont dans la même poche.
Oui, alors, certes, sûr, mais il faut aussi. Alors après, je vais me faire l'avocat du diable, Pascal, mais il faut aussi travailler des gens. C'est-à-dire que tous les groupes dont vous parlez. Combien ils emploient de personnes, les Muliers?
Ils ont besoin des gens. Le jour où ils n'ont plus besoin de caissières, ça commence à faire, ils enlèvent des caissières. Le jour où ils n'ont plus besoin, ils enlèvent tout le monde. Voilà. Et ce sont pas. Moi, je les connais, les salaires de tous ces gens-là.
Oui, mais on a besoin aussi. On a aussi besoin de patrons en France. Je veux dire, les entreprises sont un patron.
Il faut qu'il y ait plus de patrons. Il faut qu'il y ait plus de patrons. Moi, j'étais dans le commerce. Dans le commerce, tu sais, j'aurais pas pu me développer. Voilà.
D'accord.
En pleine. J'étais en montagne. On a un micro-marché. Donc là, on y arrive. Mais tout est pris en bas. Tout est pris par la même personne. Donc le pauvre, il faut qu'il bosse. Il faut pas lui donner de l'argent comme ça. Mais il faut qu'il bosse. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis, il faut qu'il soit patron. Il faut qu'il y ait plus de patrons.
D'accord.
Bernard Tapie disait que son seul objectif dans la vie, c'était de gagner de l'argent.
Oui.
Sa valeur, c'est de gagner de l'argent. Et de plus en plus, plus possible.
Il en a aussi beaucoup perdu. Non, mais j'entends, il en a aussi beaucoup perdu, Bernard Tapie. Ouais, il n'a pas terminé richissime non plus.
C'était un mec intelligent dans le business. Il était très intelligent. Par contre, humainement parlant, mais c'est impossible,
bon.
Quelque part.
C'est un autre débat. Mais merci beaucoup, Pascal. Je ne sais pas comment on est arrivé à Bernard Tapie. Mais merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous. On a plein de messages également sur l'appli RMC, Paul.
Oui, Pierre nous dit, il ne faut pas plafonner les salaires des patrons. Moi, je suis salarié et ouvrier. Et c'est normal que le patron gagne plus que moi. Il a monté sa boîte et c'est lui qui gère sa société. Donc tout ça est bien normal.
Oui, c'est normal, mais peut-être pas mille fois plus, quoi.
Non. Mais c'est en tout cas l'avis de notre auditeur. Et Pierrot qui nous dit taxer les grands patrons, leur imposer un salaire, c'est le retour de l'Union soviétique. Est-ce qu'on doit considérer cela comme Est-ce qu'on doit considérer que cela a bien marché par le passé? Voilà.
Oui, il y a eu quelques erreurs de fait quand même. Notre invité sur ce débat, c'est l'économiste Pascal de Lima. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Pascal, ce serait possible de plafonner le salaire des patrons ?
Ça me paraît un petit peu compliqué. On est quand même sur la loi des marchés. Effectivement, voilà, il y a les actionnaires. Hein. Ce sont, après, c'est la théorie de l'agence. Hein. Comme disent les économistes, les actionnaires nomment un patron avec une rémunération. L'actionnaire a des responsabilités. Il est le premier aussi éjectable, hein, d'une certaine façon. C'est un petit peu comme Mbappé. Oui. S'il marque moins de buts, il va vite se retrouver dans une situation difficile. Et puis, en plus, on n'est pas les pires en France par rapport à d'autres pays.
Ouais, les États-Unis.
Voilà en gros, là, ma réponse la plus directe.
Mais aujourd'hui, est-ce que c'est indécent de savoir qu'un patron gagne 1453 fois le salaire moyen de ses employés? C'est vrai qu'on se dit, bon, bah, peut-être que s'il gagnait 1000 fois, il pourrait en reverser un peu, quoi.
Bon, moi, je pense que c'est pratiquement un sujet de conviction politique, de façon dont il faut créer les richesses dans une société. On voit bien qu'il y a une opposition politique. Moi, je dirais oui et non. Bon, d'une certaine façon, on doit peut-être pas encadrer, peut-être réguler. Il y a des arguments autour de cela pour dire qu'une rémunération très élevée peut porter préjudice aussi à un certain nombre d'investissements d'avenir. Hein. C'est un gâteau quand même, le chiffre d'affaires, en fait. Donc, vous ponctionnez une partie aussi des ressources pour des usages qui pourraient être plus collectifs, on va dire. Dans un contexte tendu aussi sur ses propres salariés, hein, lorsque les salaires des propres salariés n'évoluent pas, bon, et qu'il y a même une divergence de parcours en termes salarial, bon, on peut se poser des questions, et surtout s'il n'y a pas de résultat économique pour l'entreprise. Maintenant, d'un autre côté, comme je l'ai dit, d'abord, ce sont les actionnaires qui drivent la plupart du temps. Ensuite, il y a cette responsabilité, les talents qu'il faut être capable de rémunérer, ne pas faire fuir nos patrons à l'étranger, évidemment. Si l'entreprise, finalement, y trouve aussi leur compte, pourquoi est-ce que toutes nos multinationales seraient des méchantes entreprises où vous avez cité Michelin avec le salaire décent, mais il y en a d'autres, hein, où il y a des mécanismes d'intéressement, etc., où les salariés trouvent leur compte. Et en plus, les multinationales font de nombreux investissements d'avenir pour transformer l'organisation, aller vers le monde de demain, les métiers de demain. Donc ma conclusion, c'est qu'il faut trouver une cohérence d'ensemble, un équilibre entre toutes les parties prenantes, et puis éviter de mettre les uns contre les autres, comme d'habitude.
Ça, je suis d'accord, Pascal de Lima, il faut que les patrons soient très bien rémunérés, il n'y a pas de problème avec ça. Après, ce qui peut paraître choquant, c'est en fait quand on sait que sur 3 ans, les patrons ont été augmentés de 27% et les employés de 9%. Il y a quand même un truc qui ne va pas, c'est-à-dire qu'on pourrait au moins aligner, évidemment que 20% pour un patron, c'est plus que pour un salarié, mais aligner, je veux dire, le pourcentage pour tout le monde, c'est-à-dire que si le grand patron il s'augmente de 20%, tout le monde est augmenté, en tout cas l'enveloppe est de 20%. Après il y a des gens qui sont augmentés de 40%, voilà.
C'est un tout petit peu directif, parce que comme vous l'avez dit, on a augmenté 30% les patrons et de 9% les autres, mais on n'a pas baissé les salaires des autres, vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas possible de baisser les salaires. C'est
qu'il y a des responsabilités, des critères qui sont différents, et que peut-être si certains gagnent en vitesse un peu plus que d'autres. Néanmoins, dans l'exemple que vous citez, pour moi, c'est un exemple équilibré, surtout qu'on voit que les hausses de salaire, en particulier en 2023, indépendamment des patrons, ont quand même augmenté légèrement plus en moyenne, encore une fois, évidemment, cas par cas, vous allez trouver des contre-exemples, mais en moyenne, un peu plus que l'inflation.
Oui, c'était 4,9.
Il reste en trajectoire compatible les uns et les autres, si vous voulez.
Merci beaucoup Pascal de Lima, en tout cas, d'avoir été avec nous, et ce sont nos auditeurs et nos téléspectateurs qui vont trancher. Paul, est-ce qu'il y a une large majorité qui se détache?
Pas vraiment. Faut-il plafonner le salaire des patrons? Vous répondez oui, mais pour entre guillemets seulement 55% d'entre vous. C'est assez partagé.
Mais oui, c'est un faible pourcentage. Je pensais franchement qu'on allait avoir du 80-20, et c'est assez étonnant comme quoi on aime quand même les patrons aujourd'hui en France. Dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur d'RMC. On va parler de la chute du nombre d'ouvriers en France. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou le déplorer? On va parler de ces retraités qui vont assurer la sécurité des JO. Est-ce que ça vous rassure ou pas du tout? Et puis, comprenez-vous qu'on refuse de porter la flamme olympique? À Marseille, il y a une asso qui ne veut pas porter la flamme olympique parce qu'il y a Coca en sponsor. Bon, écoutez, on en parle dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est sur RMC Story, il est 13h31, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure du zapping, le meilleur de RMC.
RMC Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va les commenter, ces meilleurs moments, avec Paul Lassène, avec Benjamin Amar, Thierry Moreau et Juliette Briens. Et on démarre tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Moins d'ouvriers et plus de cadres en France. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Selon une étude de l'INSEE, la part des agriculteurs et des ouvriers a été vite divisée par deux en 40 ans. En revanche, la part des cadres a quasiment triplé à cause de la tertiarisation de notre économie. Mais l'enseignante Barbara Lefebvre en est persuadée, les métiers de la main auront leur revanche.
Après avoir sacrifié les paysans, on n'a rien dit. Avoir sacrifié les ouvriers, avant, on n'a rien dit. Quand l'intelligence artificielle va nous laminer les petits cols blancs, alors là, on va aller voir les cols blancs qui n'ont rien dit pour les paysans, qui n'ont rien dit pour les ouvriers. Quand ça va leur tomber sur la tronche et que la moitié des métiers des soi-disant managers, parce que, excuse-moi, un cadre et manager, bon, il y en a certains, c'est de la flûte, hein, ça fait trois slides et ça te dit que c'est manager, et trois reporting et trois, quatre mots en anglais
les
et ça croit que c'est manager. Voilà. Et ben, quand ceux-là, ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle, on va bien se marrer. Et c'est les métiers, les vrais métiers de la main, les vrais métiers de l'humain, c'est ceux-là qui resteront.
Juliette Briens, c'est ce qu'il faut déplorer qu'il y ait moins d'ouvriers et d'agriculteurs en France aujourd'hui?
Oui, évidemment, c'est une catastrophe pour les classes ouvrières, qu'elles disparaissent. On a totalement désindustrialisé le pays. On avait une industrie incroyable qui permettait aux classes les plus basses de travailler, mais avec une vraie estime de soi et un vrai statut et un vrai salaire, puisque les salaires dans le tertiaire sont bien moindres que dans la classe ouvrière dans l'industrie. Et donc, je trouve ça absolument catastrophique et je le déplore de toute mon âme. Et ce chantier de réindustrialisation de la France serait pour moi une des meilleures nouvelles pour ce pays, en effet.
Après, le paradoxe, c'est qu'on ne cesse de nous dire qu'il y a des métiers très durs en France. Ouvrier, c'est pas facile. Hein. Enfin, je veux dire, quand vous êtes au 3-8, ouvrier à la chaîne.
Après, en France aussi, on a des conditions de travail qui sont cadrées sur des avantages. Être ouvrier, c'est un métier de main, c'est un métier qui a du sens, c'est un métier qui offre un statut, c'est un métier qui est rémunéré correctement. Et c'est bien mieux que ce qu'on a maintenant. Après, il y a des phénomènes qu'on ne pourra pas combattre. Effectivement, on parlait de l'intelligence artificielle. De toute façon, ça vient, on va pouvoir qu'on s'adapte. Mais cette désindustrialisation de la France qu'on a mis à la poubelle, notre industrie, ça, par contre, on pouvait l'éviter. Et on peut revenir dessus.
Je suis d'accord avec toi, mais dans ces cas, qu'on ne vienne pas nous dire, oh là, tous ces métiers pénibles, etc. On les supprime, et en fait, on dit, on a supprimé les métiers pénibles. C'est comme les caissières.
Les gens veulent juste être rémunérés à la hauteur, pouvoir vivre de leur métier. C'est tout. Mais les ouvriers n'ont jamais déploré le fait d'être ouvriers. C'est pas vrai.
La désindustrialisation de notre pays, elle a une explication, c'est qu'on arrive à produire ailleurs moins cher. Enfin, tu es trop jeune pour l'avoir connu, mais enfin, moi je me souviens de l'industrie textile en France où ça devenait tellement cher que tous les boussacs et autres ont fermé et on a été acheter nos vêtements ailleurs.
Et pourquoi?
Le problème, c'est faisons revenir ces métiers-là. Est-ce que tu es prête à payer 2, 3, 4, 5 fois
c'est
plus cher.
Juste termine.
Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de réindustrialiser notamment les filières pharmaceutiques. Donc, on va à nouveau avoir des usines de paracétamol. Sauf que, on va le payer 20, 30, 40% plus cher. Oui. Il faut le savoir. Donc, très bien. Là, déjà. Et puis, moi, quand Barbara Lefebvre dit, les managers, c'est 3 slides. Non.
La preuve. Elle a pas tort sur certains, pardon.
Évidemment, mais vous trouverez toujours des mauvais dans toutes les professions. Il y a des mauvais agriculteurs, des mauvais journalistes et des mauvais patrons.
Les managers
ne sont pas des gens qui me font 3 slides et qui disent qu'ils managent. On a parlé tout à l'heure de Tavares à la tête de Stellantis. Excusez-moi. C'est des gens qui savent manager. Donc, mettre dans le même sac, je trouve ça d'une démagogie absolue. Oui. De dire que sous prétexte que ce type est en col blanc, c'est un type qui fait 3 slides et qui sert à rien.
Excusez-moi.
Des managers, il en faut. Et vous savez très bien, Estelle.
Oui.
En plus, vous le savez très bien. Dans toutes les boîtes que vous avez traversées, comme toutes les boîtes que j'ai traversées, il y a des bons managers et des mauvais managers.
Oui, merci Thierry. Je veux dire, on avance.
Ce que je veux dire, c'est que tout va être dans le même sac en disant que sous prétexte.
C'est pas ça. Les gens qui sont en quête de sens, par exemple, qui te disent oui, mon métier n'a pas de sens, je ne sais pas ce que je fais. Excuse-moi, c'est rarement des ouvriers ou des agriculteurs. Là, ils savent très bien ce qu'ils font.
Je suis d'accord.
C'est des managers qui disent je sais même pas ce que je fais. Ils font un boulot, ils savent même pas ce qu'ils font. Ils regardent leur écran là, avec des slides, des machins, des pourcentages, tout ça. Tout ça, c'est du vent, quoi. Voilà. Et là-dessus, elle a raison.
Il y en a, oui, mais c'est pas la majorité du genre. C'est comme les poissons. Il y en a quelques volants, mais c'est pas la majorité du genre.
Non, c'est
certes, mais en tout cas, tu ne verras pas d'ouvriers qui te disent que ça
fait. C'est Michel Audiard qui disait ça.
Benjamin Amar.
C'est amusant parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait un cours à mes élèves sur les espaces productifs. Et justement, j'ai largement insisté sur le fait que la tertiarisation de l'économie, et en France, elle est particulièrement poussée, comme elle est particulièrement poussée en Grande-Bretagne, s'est traduite par une désindustrialisation qui est une catastrophe.
Complètement.
Une catastrophe, parce que ça a été dit quelque part par Juliette, derrière la classe ouvrière de ce pays, elle avait des compétences, elle était qualifiée.
Ouais.
Et qu'effectivement, la tertiarisation fait qu'on a des tas de métiers dans le secteur tertiaire qui ne sont pas du tout qualifiés, chez Amazon, dans le cadre de l'ubérisation, etc. Et que donc les salaires sont beaucoup plus bas. Et on a bien vu, pendant le Covid, que le roi est nu, nous n'étions pas capables de produire des vaccins,
exactement,
des masques. Moi, vous savez que j'ai eu la forme grave du Covid. J'ai été mis en réanimation. Quand je me suis réveillé, j'ai vu un médecin qui avait un sac poubelle. Et une de mes premières phrases a été de lui dire « Mais comment se fait-il ?» Et il m'a dit « Mais on n'a pas de blouse dans ce pays. » Donc, bien évidemment, que le constat qui est fait, et pourquoi est-ce que c'est si grave de ne pas avoir d'ouvriers ? Parce que derrière, on n'a pas d'industrie. Et que l'industrie, c'est extrêmement important. On ne fonctionne pas une économie simplement avec les services.
Il faut avoir de quoi les payer.
Oui, mais alors ça, vois-tu, ça, encore une fois, la question est de savoir si tu joues sur le terrain de l'adversaire ou pas. Pour pouvoir payer des produits plus chers, il faut avoir des salaires plus importants. Si on paye mieux les salaires, eh bien les gens peuvent payer. Tu sais, c'est Henry Ford. Alors, là aussi, il n'était pas marxiste-léniniste, Henry Ford. Mais il disait, je paye bien mes ouvriers, parce que comme ça, ils peuvent payer mes voitures.
Et pour bien payer ses ouvriers, il faut qu'il y ait moins d'impositions et moins de charges.
Non,
et
pas
moins
forcément.
De taxes. Comme ça, on
pas
peut,
forcément.
On
serait...
comme ça, on
pas
peut
forcément
rivaliser avec
Je te rappelle que 60% du PIB de notre pays est lié à la consommation des ménages. Quand les gens ont un accès direct à la santé, comme avec la sécurité sociale, c'est très bon pour leur pouvoir d'achat parce qu'ils n'ont pas à faire de dépenses de santé privées.
Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, quand le net se rapprochera du brut, je veux dire, les Français pourront aussi plus consommer. Et je pense que c'est hyper décourageant pour plein de Français. Tu vois ton salaire brut et tu vois ce qui te reste à la fin.
Mais il faut dire aux Français à quoi sert ce salaire brut.
Ils le savent.
L'école se dégrader, donc ils se demandent justement.
Avec la sécurité sociale, il faut leur expliquer comment ça se passe aux États-Unis, là où il n'y a pas de carte vitale. C'est la carte bleue qui tourne.
Donc, personne ne veut ça. Le salaire brut, c'est extrêmement important. Personne ne veut ça, Benjamin. On est tous d'accord. Mais sauf que dans les faits, on paye toujours plus d'impôts et
tout. L'argent est mal employé, ça, on est d'accord.
Nos services publics sont toujours plus dégradés. Donc, où va l'argent? Je le demande. Où va l'argent?
Alors, sur la politique des services publics, on a un large débat à avoir. Parce que sur la façon dont on rogne et on dégrade les services publics, on ne les renforce pas. Hein. Le financement, il ne progresse pas. On a une politique des services publics qui est délétère.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, des retraités pour assurer la sécurité des JO, est-ce rassurant ou inquiétant? Depuis plusieurs semaines, France travaille, démarche et forme tous les retraités volontaires pour assurer un poste d'agent de sécurité aux Jeux Olympiques. Témoignage pour RMC de Jean-Yves. Il est ancien commercial de 65 ans et il suit actuellement une formation.
C'est quand même quelque chose de fabuleux de recevoir les Jeux Olympiques à Paris et de pouvoir y participer en tant qu'agent de sécurité. Oui, ça nous enchante. Des craintes, on en aura toujours, mais on n'y pense pas parce que je pense que ça va être une manifestation qui devrait bien se passer. Il n'y a pas de raison puisqu'ils ont tout mis en place pour les tentatives d'attentats et tout. Je pense qu'on est préparé quand même. On a des ressources pour pouvoir parer d'éventuelles attaques comme ça.
Non, mais au début, j'ai cru que c'était un truc de Gorafi. Non, mais c'est pas possible.
Il faut essayer de pas caricaturer, même si ça fait rire, ça renvoie une image. C'est vrai, assez inquiétante. Je pense que ces gens, comme dit Thierry, ne vont pas courir après les terroristes. Ils sont là pour un côté organisationnel de la cérémonie.
Non, ils sont agents de sécurité.
Oui, agents de sécurité, c'est-à-dire qu'ils vont être, placés, en gros, aux barrières pour pouvoir.
Oui, donc
s'il
se passe quelque chose, ils seront très efficaces.
Oui, dans agents de sécurité, il y a sécurité, tu vois ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même, dans sécurité, toi, tu entends, tiens, ces gens vont nous protéger. Moi, je n'ai rien contre les retraités, c'est formidable. Ouais. Mais je veux dire, à un moment, peut-être que j'aurais aimé être protégée par quelqu'un qui n'a pas suivi juste une formation de un mois à France Travail et qui a 70 ans. Enfin, je veux dire, voilà, il y a quand même des gens qui doivent être formés dans ce pays. C'est quand même hallucinant.
Il y aura évidemment des forces de sécurité formées. Là, je me fais vraiment l'avocat du diable. Alors là, j'imagine que, imaginez, vous avez un point de contrôle pour rentrer dans la zone des JO de la cérémonie. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 flics armés jusqu'aux dents pour faire des fouilles. Il en faut quelques-uns, plus du personnel non formé pour faire la fouille. Et s'il y a un problème, évidemment, il y a les autres derrière. Voilà. Oui. Mais franchement.
Ah oui, là, oui. Tu sens. T'as bien ramené. C'est bien connu. C'est les retraités qui ont la meilleure vision, la meilleure oui. Enfin, c'est formidable.
Mais enfin, tous les retraités sont quand même pas des grabateurs.
Et c'est pas ce que j'ai dit.
C'est ce que vous sous-entendez.
C'est pas son genre du tout, Thierry.
Que dans un arrêt au pas de gens qui sont à un point de contrôle, il y a quelques personnes qui aient 65 ans ou 70 ans et qui étaient formées de
70 ans, non, je suis désolée.
Je suis désolée, mais on est en train de. On n'a pas assez d'agents de sécurité. On est en train d'en former. Je ne suis pas sûr qu'entre quelqu'un de 30 ans formé un mois et quelqu'un de 65 ans formé un mois, je ne préfère pas celui qui a l'expérience et qui a 65 ans.
Moi, je préfère un 30 ans formé 2 ans, toi, par exemple.
Non, mais ça, c'est pas possible.
Ah, c'est pas possible.
Tout ce qu'il y a de plus compétent et de plus formé a été réquisitionné par les JO.
C'est fini.
Il n'y en a plus maintenant.
On n'a plus.
Il y a des Polonais. On va recruter en Pologne maintenant.
Moi, il y a un truc qui me vient. Peut-être qu'on aurait pu y penser avant. Mais je dis ça.
Peut-être qu'on aurait pu. Je dis ça. Cérémonie au Stade de France aussi.
On est bien d'accord.
Je le réclame depuis 3 ans. Donc là, pour le coup.
Je suis d'accord avec ça aussi.
Mais en fait, c'est vrai que c'est pas.
Maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc.
Après, je suis sûr que tout va bien se passer. Donc tout ira bien. Et c'est formidable, etc. Mais c'est vrai que là, on se dit. Mais enfin, il y a un truc qui va pas quand même.
Ah oui, il y a un gros truc qui va pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Je sais pas comment vous le dire autrement.
Alors moi, je ne crois pas du tout à l'excès d'expérience des gens de 70 ans. La question de la sécurité. Enfin, on sait en plus.
Les traités de la CGT vont pas être contents.
Il y a des enjeux de la sécurité, enfin sur ces Jeux Olympiques. Quand, enfin, j'ai plein d'estime pour les personnes qui. D'ailleurs, j'ai pas compris. Elles sont bénévoles ou pas
c'est... Ah ben non, ils sont payés. C'est France Travail.
Donc c'est France Travail. Je ne veux pas du tout manquer de respect à ces personnes-là. Mais je suis désolé. Non, c'est fortement inquiétant, bien évidemment. Oh. Et ça pose aussi la question d'abord, effectivement, de l'anticipation. On aurait pu se poser la question avant. Et donc derrière aussi, peut-être, on parlait tout à l'heure à l'instant des services publics. Les services publics dans ce pays devraient pouvoir faire face à ce genre d'événement. Et ça n'est pas le cas.
On va embaucher des gens pour faire après les JO.
Et je trouve effectivement fortement inquiétant qu'on aille effectivement recruter des retraités pour des questions de sécurité. Parce que si à un moment il y a un mouvement, il y a un mouvement de foule, si à un moment il y a un débordement, mais quelqu'un de 73 ans, il aura bien du mal à faire face.
Mais ça va faire des fractures du col du fémur.
Oh non, c'est honteux ce que vous. C'est,
mais oh,
c'est
ça
honteux.
Va. On peut rigoler.
Il le prend pour lui. Je pense à tous les retraités qui nous écoutent, qui sont en pleine forme derrière leur poste.
Et qu'on embrasse très fort,
voilà,
évidemment.
J'espère. Sur le col du fémur.
Je pense d'aller se taper la sécurité des JO, je pense.
Mais la journée qu'on a vue, j'imagine que c'est aussi pour avoir un petit complément de retraite, tu vois, parce, oui. Parce que les retraites ne sont pas assez hautes et tu ne vas pas quand même, voilà, un peu déprimé, tu ne vas pas valider ça tout de même.
Bien sûr. Ah non, certainement pas.
Voilà. Apolline Matin, ce matin sur RMC, l'inspecteur Derrick va-t-il ressusciter dans une série française? Voilà, ça aussi je crains bien. La production.
Sans transition.
Oula, oui. La production de la prochaine série Mémoire vive sur M6 recherche activement un homme de plus de 60 ans et portant des lunettes comme le célèbre inspecteur allemand. C'est une annonce très sérieuse que nous détaillait ce matin Charles Magnin. Oui Thierry, c'est vous.
Alors, appel à candidature lancé du côté de Nantes où sera bientôt tournée la série Mémoire vive pour une diffusion sur M6. Le réalisateur s'appelle Arnaud Malherbe. Rien à voir.
Non.
Mais pour le tournage, il recherche des figurants assez classiques, des hommes, des femmes qui pourraient jouer des passants, un chauffeur de taxi, un employé de piscine ou encore des policiers, mais surtout un sosie de Derrick. Le casting concerne.
Faut des lunettes jaunes.
Je précise.
Faut des lunettes légèrement fumées jaunes.
Oui, les hommes entre 60 et 90 ans avec une forte ressemblance à l'inspecteur Derrick.
Alors, vous ne ressemblez pas à l'inspecteur Derrick,
j'ai pas encore 60 ans, c'est le 1er novembre.
Oui, mais c'est vrai. Très bien, mais en fait, je suis quand même très étonnée qu'on veuille ressusciter Derrick. Enfin, à un moment, on ressuscite tout le monde.
C'est tout à fait compréhensible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de séries qui fonctionnent parfaitement bien. Et le service public, par exemple, s'est débarrassé d'un certain nombre de séries comme Mongeville, etc., qui ont été rachetées par les chaînes de la TNT et qui cartonnent.
Et toujours le truc avec le chien, là, qui passait.
Oui,
non,
Rex.
C'est Rex.
Après déjeuner, ça fonctionne très, très bien aussi. Mais bien sûr, les séries patrimoniales comme ça, les séries un peu anciennes, vous avez. Alors, là aussi, sans moquerie, il y a beaucoup de gens pour lesquels la télévision. C'est le seul loisir, c'est-à-dire qu'ils sont seuls chez eux et donc ils se divertissent avec la télévision. Et parmi les héros qui leur plaisent, il y a des gens, des héros qui leur ressemblent en termes d'âge. Et donc Mongeville, Louis la Brocante, Derrick éventuellement. Si, je présume qu'ils vont le faire de manière un petit peu plus moderne parce que évidemment, si on prend Derrick,
ce serait mieux,
avec sa BMW un peu poussive, ça va être un peu compliqué. Mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée.
Mais j'aurais Jürgen avec.
Non mais je
pardon.
Pense...
ils vont mettre Jürgen, etc.
Ah, je sais pas. Non, mais t'es à fond.
Ah, moi, je connais Derrick. Derrick,
donc voyez bien qu'il y a un public.
Même
la CGT regarde Derrick.
Parce que justement, en fait, parce que l'âge moyen des téléspectateurs de télévision est de plus en plus âgé.
Pardon ? Télévision.
J'ai dit quoi ?
Télévisation.
Oula. De télévision est bien évidemment de plus en plus âgé. Donc oui. Tout le monde essaie de capter ce public-là, puisque c'est le plus nombreux, puisque les jeunes sont sur YouTube et Internet.
Enfin, on peut peut-être offrir autre chose aux retraités à la télé.
Content, mais
non, mais attends, en plus, non, attends, excusez-moi, Mémoire vive. Ah oui. On dirait le titre d'un vieux téléfilm de Noël.
Mais c'est travail.
Avec mamie qui va mourir. C'est pas possible. Mémoire vive. Non, mais attends, mais c'est affreux.
C'est un titre qui est vif.
Non mais t'as pas du tout envie de regarder non. Ça. J'adore M6, mais là
pour voir le sosie de Derrick, moi je serais devant ma télé.
C'est pas pour toi qu'ils le font, Estelle.
Bah oui, encore autre.
Ils n'essayent pas de capter.
Vous êtes
non,
pas dans
toi
la cible.
Et tes enfants.
Oui, mais M6 c'est une chaîne plutôt, enfin en tout cas qui essayait à un moment de conquérir plutôt les jeunes. Donc c'est pas en faisant Derrick.
Si ça marche.
Vous verrez. Il y a pire que Derrick. Souvenez-vous, il y avait Le Renard. C'était encore.
Oui, le renard. C'était encore un truc allemand. Ça.
Ah oui, bien sûr.
Bien sûr.
Des belles lunettes teintées aussi.
Moi j'aimais bien Columbo.
Ah, Columbo, j'adore.
Columbo, c'est super. Peter Falk.
Voilà, toujours.
Tous les samedis soirs.
J'adore Columbo.
Avec, toujours. En plus, c'est une série. C'est toujours des riches. Ils enquêtent toujours avec des criminels qui sont hauts dans la société.
Mais bien sûr.
Ah oui, c'est une revanche sociale.
Ah, c'est bien sûr que c'est ça.
La
avec sa vieille voiture toute pourrie, bien sûr.
Et son vieux par-dessus râpé.
Il s'en allait, il a arrêté. Tout ça.
Dans un instant, nous allons parler. Eh bien oui, RMC s'engage avec vous. Non, mais c'est génial. On va tenter d'aider un auditeur qui attend son permis de conduire depuis 8 mois. À votre avis, à cause de qui il attend son permis de conduire ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? C'est Benjamin Hamar, hein ? Un service public.
Alors, je sais pas.
La Poste. La Poste a perdu le courrier depuis 8 mois.
Ah oui, bon, écoutez, c'est les boules.
Bah oui, c'est les boules. On va essayer de lui retrouver grâce à Amélie Rosy. Tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h52 et chaque jour à cette heure-ci dans l'émission, eh bien, on vous aide dans Estelle Midi grâce à Amélie Rosy. RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et vous menez à bien toute l'émission, Amélie. Et aujourd'hui, vous allez devoir récupérer un permis de conduire qui est introuvable depuis 8 mois.
Oui, voilà, c'est ça. En général, le permis, c'est un examen qu'on n'oublie pas. Estelle, je ne sais pas vous si vous en souvenez.
Oui, ce n'est pas un super souvenir, mais enfin, je l'ai eu.
Oui, voilà, mais moi, je me souviens carrément de la météo. C'était l'angoisse totale, j'ai un stress épouvantable. Mais en tout cas, Julien, lui, 21 ans, vit à Pusignan, en banlieue lyonnaise. En août dernier, il obtient son permis de conduire du premier coup, comme moi. Voilà, je l'ai placé. Il pense que
oui,
le
aussi,
plus dur.
Mais j'ai raté le code.
Ça c'est ballon quand même.
Encore elle se moque.
Non, mais en fait, je pensais que n'importe quel crétin pouvait l'avoir, ce qui est pas faux, et donc je n'ai pas trop bossé. Et du coup,
je vous juge. Soyons.
Mais après, j'ai eu.
Bravo Estelle. Donc évidemment, une fois qu'il a son permis, il pense que le plus dur est derrière lui, mais comme oui. Pour Estelle avec le code. Et pas du tout. Pas du tout, parce que 8 mois plus tard, il ne l'a toujours pas reçu.
J'ai l'attestation provisoire une fois qu'on passe le permis de conduire, mais elle a fini d'être valide fin décembre. Ce qui fait que depuis le début du mois de janvier, j'ai pas de permis de conduire alors que j'ai besoin de mon véhicule pour aller en cours, j'ai besoin pour aller travailler, pour mes déplacements du quotidien. Heureusement, je me suis pas encore fait arrêter.
Ouais, heureusement, il s'est pas fait arrêter. L'Agence nationale des titres sécurisés, la NTS, c'est elle qui délivre les papiers, l'informe que la Poste a perdu le courrier recommandé.
Oh, c'est fou parce que ça n'arrive jamais, ces choses-là.
Mince alors. Et donc, la NTS, tenez-vous bien, lui envoie un simple mail pour unique preuve qu'il a bien son permis en disant, pas de souci, si vous êtes arrêté par les forces de l'ordre, vous montrez le mail et puis ça va le faire. Bon, vous vous doutez qu'il est pas hyper rassuré, notre Julien.
Non,
surtout que la loi est plutôt claire à ce sujet. En cas de contrôle routier, vous devez pouvoir montrer votre permis. Sinon, vous risquez une amende de 11 à 38 euros et même jusqu'à 750 euros parce qu'il faut aller dans un commissariat ou une gendarmerie dans les 5 jours, si jamais vous ne l'avez pas, pour montrer votre titre. Et en l'occurrence, il ne l'a pas. Donc, voilà.
Mais excusez-moi, Amélie, pardon d'être logique, mais Julien a passé son permis il y a 8 mois. Bon, il s'est rendu compte assez vite que la Poste avait perdu son permis. ANTS, il ne pouvait pas. Ce n'est pas possible de renvoyer un permis. Si j'avais été à l'ANTS, c'est ce que j'aurais fait, par exemple.
Et oui, imaginez, le permis, comme il n'est jamais arrivé, il n'est pas vraiment perdu. Donc on ne peut pas en refaire un.
Ce serait un doublon.
J'ai été mouché.
Serait un doublon.
Et donc, la NTS mène d'abord une enquête postale. D'ailleurs, il y a eu deux enquêtes postales. Une première enquête postale qui n'a rien donné. Et après, ils ont relancé une enquête postale mi-avril. Donc là, elle est toujours en cours. Ah ouais. Et il existe
le déploiement de moyens.
J'ai un scoop pour vous. Ça ne me donnera rien. Partons du principe que ça ne marchera pas.
Ça ne donnera rien. Il existe bien un entrepôt des plis égarés. Il se trouve à Libourne, en Gironde. Les postiers, ils traitent quand même 20 000 dossiers chaque jour.
C'est sur les marchés, vous savez, des colis mystères. Oh, un permis ! Le permis de Julien. Alors, sauf que
c'est drôle pour les youtubeurs.
Voilà, dans cet entrepôt, c'est plutôt des courriers avec des adresses mal rédigées, par exemple. Oui. Donc, on se doute que la NTS a pas mal rédigé l'adresse de Julien. Non. Et donc, voilà, à ce jour, l'enquête sur le permis n'a pas abouti. Voilà. Et donc, dans ce laps de temps, l'agence ne délivre pas de nouveaux permis. À savoir quand même, l'année dernière, 2,7 millions de permis de conduire, toutes catégories confondues, ont été délivrés par la NTS et envoyés par la Poste. On a demandé combien avaient été perdus. Oui. On n'a pas eu la réponse.
C'est bizarre, ça. Alors, attendez, 2,7 millions. Il y a peut-être une petite centaine de milliers.
Arrêtez.
Juste, voilà, revenons à nos moutons et notamment à Julien. Il va pouvoir rouler combien de temps comme ça sans permis, Julien? Enfin, à un moment, il va falloir qu'on lui donne quelque chose.
Et oui, voilà, c'est ça. Et bien évidemment, grâce à notre intervention spectaculaire, normalement plus pour très longtemps, avec Guillemette Franquet, nous avons demandé des comptes aux services concernés. Et hop, Julien a reçu un mail de la Poste vendredi dernier, puis un coup de fil dans la foulée de la NTS. Une demande spéciale perte a été faite et sera traité en priorité. Ah. Le papier rose, enfin du coup la carte rose, maintenant, je fais vraiment vieille personne, ne devrait plus tarder. Oui, un peu.
Rosé, quoi.
Bref, on veillera à tout ça, puisque à ce stade, la NTS ne nous a pas donné de délai. Ils nous ont dit traité en priorité.
On a vu l'inspecteur d'Éric est sur le coup.
Très bien, mais c'est pas gagné pour Julien. On continuera à prendre de ses nouvelles pour Julien, pour savoir si un jour il récupérera ce fameux permis de conduire. Merci beaucoup, Amélie Rosic. Vous retrouvez bien sûr cette chronique en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. J'ai une question indiscrète pour vous, Amélie.
Tiens.
Eh ben oui, je sais pas, comme ça me vient. Vous aimeriez avoir une résidence secondaire?
J'adorerais avoir une résidence secondaire. Oui, c'était un de mes projets en sortie de confinement.
Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Génial. Et ben ensuite, j'ai compris que si j'avais une résidence secondaire, mécaniquement, j'allais devoir beaucoup y aller. Donc du coup, j'irais pas ailleurs. Je me suis dit, en fait, c'est bien de voyager ailleurs.
Et voilà.
Voilà.
On va se poser cette question. Justement, il y a plus de 3 millions de Français qui ont une résidence secondaire. Mais avoir une résidence secondaire, est-ce l'enfer ou le paradis? Est-ce que ça vous fait toujours rêver? Vous nous appelez au 3216, vous nous écrivez sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.